5. Marcy Maitland accueillit volontiers Grace dans son lit quand celle-ci le réclama. Mais lorsqu'elle demanda à Sarah si elle voulait les rejoindre, sa fille aînée secoua la tête.
« Si tu changes d'avis, » dit Marcy, « je suis là. »
Une heure passa, puis une autre. Le pire samedi de sa vie devint le pire dimanche. Elle pensait à Terry, qui aurait dû être là à cet instant, dormant à point fermé, rêvant peut-être au titre de champion, maintenant que les Bears avaient été éliminés, et qui, au lieu de cela, se trouvait dans une cellule. Était-il réveillé lui aussi? Bien sûr. Elle savait que des jours difficiles s'annonçaient, mais Howie allait tout arranger. Terry lui avait dit une fois que son ancien co-entraîneur était le meilleur avocat pénaliste de tout le Sud-Ouest, et peut-être même qu'un jour, il siégerait à la Cour suprême de l'État. Compte tenu de l'alibi en béton de Terry, Howie ne pouvait pas échouer. Mais chaque fois qu'elle puisait dans ce raisonnement un réconfort suffisant pour s'endormir, elle pensait à Ralph Anderson, ce salopard, ce Judas, qu'elle croyait être un ami, et elle se réveillait. Dès que cette histoire serait terminée, elle attaquerait en justice la police de Flint City pour arrestation arbitraire, diffamation et tous les griefs que pourrait trouver Howie Gold. Et quand celui-ci commencerait à balancer ses missiles juridiques, elle veillerait à ce que Ralph Anderson se trouve à l'épicentre. Pouvait-il le poursuivre personnellement, le dépouiller de tout ce qu'il possédait? Elle l'espérait. Elle espérait que le tribunal les jetterait à la rue, lui, sa femme et son fils, à qui Terry avait consacré tant de temps. Il se retrouverait pieds nus, en haillons, des sébiles à la main. Elle devinait que de telles choses n'étaient plus possibles à notre époque prétendument évoluée. Mais elle les imaginait très nettement tous les trois mendiant dans les rues de Flint City. Et, à chaque fois, cette vision la réveillait, vibrante de fureur et de satisfaction. Sur la table de chevet, le réveil indiquait 2h15 quand sa fille aînée apparut sur le seuil de la chambre. Seules ses jambes dépassaient du grand t-shirt Oki City Thunder qui lui servait de chemise de nuit.
« Tu dors, maman ?»«
Non.
Je peux venir avec Gracie et toi ?»
Marcy repoussa les couvertures et se déplaça. Sarah se glissa dans le lit, et quand sa mère la serra contre elle en l'embrassant dans le cou, la fillette éclata en sanglots.
« Chut, tu vas réveiller ta sœur. » « J'y peux rien. Je n'arrête pas de repenser aux menottes. Pardon. »
« Doucement alors, doucement ma chérie. »
Marcy étreignit Sarah jusqu'à ce que la fillette ait tout évacué. Ne l'entendant plus sangloter depuis 5 minutes, elle pensa que Sarah s'était enfin endormie. Ainsi coincée entre ses deux filles, Marcy espéra trouver le sommeil à son tour. Mais soudain, Sarah roula sur le côté et la regarda. Ses yeux mouillés brillaient dans l'obscurité.
« Il ne va pas aller en prison, hein, maman ?»«
Non, il n'a rien fait. »«
Il y a des innocents qui vont en prison, pendant des années même. » Jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive qu'ils étaient innocents en fin de compte, et quand ils ressortent, ils sont vieux. Ça n'arrivera pas. Papa était à Cap City quand s'est produite cette chose pour laquelle ils l'ont arrêté. Je sais pourquoi ils l'ont arrêté,
dit Sarah. Elle sécha ses larmes.
Je ne suis pas idiote.
Je sais bien, ma chérie.
Sarah s'agita dans le lit.
Ils doivent bien avoir une raison.
À leurs yeux, sûrement. Mais ils se trompent. Monsieur Gold leur expliquera où était ton papa et ils seront obligés de le relâcher.
Ok.
Un long silence.
Mais je ne veux pas retourner en colonie tant que ce n'est pas terminé. Et je pense que Gracie ne devrait pas y aller non plus.
Vous n'êtes pas obligé. Et à l'automne, tout ça ne sera plus qu'un souvenir.
Un mauvais souvenir,
dit Sarah entre deux reniflements.
Je suis d'accord. Maintenant dors.
Sarah s'endormit, et réchauffée par ses deux filles, Marcy aussi. Pour revoir en rêve Terry emmené par les deux policiers, devant les spectateurs, Bébir Patel en pleurs et Gavin Frick hébété. 6. Jusqu'à minuit, La prison du comté tenait du zoo à l'heure où on nourrit les animaux. Des poivrots chantaient, des poivrots pleuraient, et des poivrots, agrippés aux barreaux de leurs cellules, braillaient. Il y eut même des bruits de bagarre, mais chaque cellule était individuelle. Terry ne voyait pas comment cela était possible, à moins que deux types échangent des coups entre les barreaux. Quelque part, au fond du couloir, un autre récitait inlassablement la première phrase du chapitre 3, verset 16, de l'évangile de Jean, à plein poumon.
« Car Dieu a tellement aimé le monde !»« Car Dieu a tellement aimé le monde !»« Car Dieu a tellement aimé ce putain de monde de merde !»
La puanteur était un mélange de pisse, d'excréments, de désinfectants et de l'odeur des pâtes nappées d'une sauce indéfinissable qu'on leur avait servie au dîner. « Mon premier séjour en prison, s'étonna Terry. Après 40 ans, je me retrouve en tôle, au newf, au placard, à l'ombre. Incroyable !» Il aurait voulu ressentir de la colère, une colère légitime, et sans doute viendrait-elle avec l'aube, quand la réalité apparaîtrait en pleine lumière. Mais en cet instant, un dimanche, à 3 heures du matin, alors que les cris et les chansons des ivrognes se transformaient en ronflements, en paix et parfois en gémissements, il n'éprouvait que de la honte. Comme s'il avait réellement commis un crime. Sauf qu'il n'aurait pas souffert autant s'il avait été réellement coupable de ce dont on l'accusait. S'il avait été suffisamment détraqué et malfaisant pour se livrer à un acte aussi obscène sur un enfant, il serait comme un animal pris au piège, désespéré et rusé, prêt à dire et à faire n'importe quoi pour s'échapper. Vraiment? Comment pouvait-il savoir ce que pensait ou ressentait un tel individu? Autant essayer de deviner ce qu'il y avait dans la tête d'un extraterrestre. Il ne doutait pas un seul instant que Howie Gold allait le sortir de là. Même à ce moment, au cœur de la nuit, alors que son esprit essayait encore de comprendre comment toute sa vie avait pu basculer en quelques minutes, il n'en doutait pas. Mais il savait aussi que toute cette merde ne s'effacerait jamais tout à fait. Il serait remis en liberté avec des excuses, demain, à l'occasion de la lecture de l'acte d'accusation, ou lors de l'étape suivante, devant un grand jury, probablement à Cap City. Mais il savait ce qu'il verrait dans les yeux de ses élèves, et sa carrière d'entraîneur était certainement terminée. Les différentes instances trouveraient un prétexte pour l'évincer s'il ne prenait pas de son propre chef la décision de démissionner. Car il ne serait plus jamais totalement innocent, ni aux yeux de ses voisins du West Side, ni aux yeux de Flint City dans son ensemble. Il serait toujours l'homme qui avait été arrêté pour le meurtre de Frank Peterson. L'homme à propos duquel les gens diraient « Il n'y a pas de fumée sans feu ». S'il n'y avait que lui, il pourrait faire face, pensait-il. Que disait-il à ses gamins quand il protestait contre une décision arbitrale injuste ? « Prends sur toi et retourne à ton poste, continue à jouer ». Malheureusement, il ne serait pas le seul à devoir prendre sur lui, pour continuer à jouer. Marcy serait stigmatisée, elle aussi. Il y aurait les murmures et les regards de biais au travail et à l'épicerie. Les amis qui n'appelleraient plus. Jimmy Mattingly serait peut-être une exception, mais ce n'était pas certain. Et puis, il y avait les filles. Sarah et Gracie seraient victimes de ces ragots cruels et de ce rejet total dont seuls les enfants de cet âge sont capables. Il devinait que Marcy aurait assez de jugeote pour les garder à l'abri en attendant que cette affaire soit réglée, ne serait-ce que pour les protéger des journalistes qui, sans cela, les traqueraient. Mais à l'automne, même quand il aurait été innocenté, elles aussi porteraient les stigmates.
« Tu vois cette fille là-bas ? Son père a été arrêté pour avoir tué un gamin et lui avoir enfoncé une branche dans le cul. »
Allongé sur son lit, il scrutait l'obscurité. Il respirait la puanteur de la prison. Il réfléchissait. On sera obligé de déménager. À Tulsa, peut-être. Ou à Cap City. Ou plus au sud, au Texas. Quelqu'un me donnera du boulot. Même s'ils m'interdisent d'approcher à moins d'un kilomètre d'un terrain de baseball, de football ou de basket. J'ai de bonnes références. Ils auront peur d'un procès pour discrimination en cas de refus. Mais cette arrestation, et la cause de cette arrestation, les suivrait partout. Comme la puanteur de cette prison. Surtout les filles. Facebook suffira à les traquer et à les prendre pour cible. Ce sont les filles dont le père a échappé à une condamnation pour meurtre. Il fallait qu'il cesse de raisonner, qu'il essaie de dormir. Il devait arrêter d'avoir honte de lui, parce que quelqu'un d'autre, Ralph Anderson, pour ne pas le nommer, avait commis une terrible erreur. Ce genre de choses prenait toujours un aspect plus dramatique en pleine nuit. Il ne devait pas l'oublier. Et, compte tenu de sa situation, enfermé dans une cellule, vêtu d'un uniforme marron de détenu trop large, il ne devait pas s'étonner si ses peurs prenaient des dimensions disproportionnées. Demain matin, il verrait les choses différemment. Il en était certain. Oui. N'empêche, quelle honte. Il se cacha les yeux. 7. Howie Gold se leva à 6h30 en ce dimanche matin. Non pas qu'il puisse faire quoi que ce soit à cette heure-ci, ni par choix. Comme beaucoup d'hommes de 60 ans, sa prostate avait grossi en même temps que son compte d'épargne retraite, tandis que sa vessie semblait avoir rétréci autant que sa libido. Dès qu'il était réveillé, son esprit passait du point mort à la première et impossible de se rendormir. Il abandonna Hélène à ses rêves qu'il espérait agréables et, pieds nus, se rendit dans la cuisine pour faire du café et consulter son portable, qu'il avait réglé en mode silence et posé sur le plan de travail avant de se coucher. Alec Pellet lui avait envoyé un texto à 1h12. Howie but son café et il était en train de manger des flocons d'avoine aux raisins secs quand Hélène le rejoignit dans la cuisine, en nouant la ceinture de son peignoir et en bâillant.
« Alors, quoi de neuf, mon chéri ?»«
Le temps le dira. En attendant, tu veux des œufs brouillés ?»«
Mon mari me propose un petit déjeuner, » ironisa-t-elle en se servant une tasse de café. « Étant donné que ce n'est pas la Saint-Valentin ni mon anniversaire, devrais-je me méfier ?»«
Je cherche à tuer le temps. J'ai reçu un texto d'Alec, mais je ne peux pas le rappeler avant 7h. »«
Bonne ou mauvaise nouvelle ?»«
Aucune idée. »
Alors, tu veux des œufs ?
Oui, deux, sur le plat.
Tu sais bien que je crève toujours les jaunes.
Étant donné que je suis obligé de rester assise et de regarder, j'éviterai de critiquer. Avec des toasts au pain complet, s'il te plaît.
Miraculeusement, un seul des deux jaunes coula. Alors qu'il déposait l'assiette devant sa femme, elle dit
« Si Terry Maitland a tué cet enfant, le monde est devenu fou. »
« Le monde est fou, » répondit Howie. « Mais ce n'est pas lui. » Il a un alibi aussi solide que le S sur la poitrine de Superman.
Pourquoi l'ont-ils arrêté dans ce cas?
Parce qu'il pense avoir des preuves aussi solides que le S sur la poitrine de Superman.
Hélène réfléchit.
Et si une force qu'on ne peut pas arrêter rencontrait un objet qu'on ne peut pas bouger?
Ce n'est pas possible, ma chérie.
Il regarda sa montre. 7h05. Presque. Il appela le portable d'Alec. Son enquêteur répondit à la troisième sonnerie.
« Vous êtes en avance. Je suis en train de me raser. Vous pouvez rappeler dans 5 minutes. À 7h, autrement dit, comme je vous l'avais demandé. »«
Non, mais je veux bien attendre que vous ayez enlevé la mousse du côté où vous tenez le téléphone. Ça vous va ?»«
Vous êtes un tortionnaire, »
répondit Alec. Mais il paraissait de bonne humeur, malgré l'heure matinale, et bien qu'on l'ait interrompu pendant une tâche que les hommes préfèrent accomplir seuls avec leurs pensées. Ce qui donna un peu d'espoir à Howie. Il avait déjà de quoi faire, mais il était toujours preneur.
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Accordez-moi une seconde, vous voulez bien. Je suis en train de foutre de la mousse partout sur le téléphone.
L'attente dura plutôt 5 secondes. Mais Alec revint enfin en ligne.
C'est une bonne nouvelle, patron. Bonne pour nous, et mauvaise pour le proc. Très mauvaise.
Vous avez visionné les images de vidéosurveillance? Il y en a beaucoup? Combien de caméras?
Oui, j'ai visionné les bandes, et il y en a beaucoup.
Alex interrompit, et quand il reprit la parole, Howie devina à sa voix qu'il souriait.
Mais il y a autre chose de mieux.